Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, ITL, l'information n'est pas une marchandise. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'une commission parlementaire, la fin de cette chaîne Tout Info et ses lendemains avec CNews se sont rappelés à notre souvenir. Devant les députés, en effet, plusieurs témoins de cette histoire ont été interrogés. À l'automne 2016, au moment de la grève d'ITL, comme aujourd'hui d'ailleurs, la majorité des médias sont la propriété de quelques-uns. Victime d'un modèle économique trop fragile, la presse se jette dans les bras du CAC 40 pour survivre, quand le même CAC 40 fait main basse sur l'audiovisuel privé, milliardaire dont les désirs et les humeurs égratignent parfois les médias dont ils sont propriétaires, influence, ingérence, c'est quasi mécanique. Mais en France, depuis 1881, la presse bénéficie d'un statut spécifique. L'information est considérée comme un bien public dont les journalistes ont la charge. Par la loi, donc, la République garantit ainsi ce droit d'informer en toute indépendance à l'égard de l'État, des influences étrangères et des puissances de l'argent. À l'automne 2016, en se mettant en grève, un an après la prise de contrôle du groupe Canal+, par l'actionnaire majoritaire de Vivendi, un certain Vincent Bolloré, c'est bien cette question que les journalistes d'ITL ont mise en débat. Et c'est un enjeu démocratique. Notre invitée aujourd'hui, Julia Cagé, professeure d'économie, autrice de nombreux ouvrages et articles sur la question justement de l'information et des droits des journalistes face aux propriétaires de médias. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Jean Bulot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Novembre 2016. Dans l'open space de la rédaction d'ITL se tient la dernière assemblée générale de la plus longue grève en France dans un média privé. La veille, un protocole de sortie de crise a été trouvé entre les représentants des salariés et la direction de Canal+. Ce matin-là, à l'unanimité moins deux voix, les salariés votent la reprise du travail.
Donc la Société des journalistes appelle à la reprise du travail. Êtes-vous d'accord ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La grève sera donc levée et le travail reprendra dès la signature de l'accord.
Quelques applaudissements nourris qui cachent pourtant de nombreuses larmes. C'est difficile d'arrêter une grève, surtout quand le combat a été perdu. Ce matin-là, comme lors de chaque AG, plusieurs journalistes prennent la parole pour annoncer leur départ. Parmi eux, Luc Michel, 17 ans de maison.
La constante, et aujourd'hui je le mesure encore plus, c'est qu'à travers 18 ans, cette rédaction, tous les gens que j'ai croisés, m'ont permis de m'élever. Et ce que je vois aujourd'hui, après 4 semaines, même si ça a l'air de fin, c'est quand même une espèce d'apothéose sur cette capacité qu'on a individuellement et collectivement à incarner ce pourquoi on s'est engagé dans ce métier. Raconter des histoires aux gens et pouvoir raconter les histoires, témoigner de ce qu'on a vu sans avoir à plier devant des intérêts. Et aujourd'hui, ça qui me semble être le cœur de notre métier, on en est collectivement et individuellement l'incarnation.
Au final, près d'une centaine de journalistes quitteront ITL pendant et au lendemain de ce mouvement. Alors, que s'est-il passé au sein des rédactions de Canal+ et d'ITL pour pousser autant de journalistes à lâcher leurs micros, stylos et caméras? Contre qui et pourquoi se sont-ils battus? Le droit les a-t-il protégés ou juste accompagnés vers d'autres maisons de presse plus libres? L'histoire d'ITL commence en 1999, un 4 novembre, comme sa grande sœur, de 15 ans son aînée, Canal+. C'était au crépuscule du dernier millénaire, un temps où les réseaux sociaux et les smartphones n'existaient pas, et où, pour surfer sur le web, il fallait brancher un modem sur son ordinateur. Au premier jour d'ITL, c'est Pierre Lescure, directeur général de la maison mère, qui a la charge d'accompagner les premières minutes de ce nouveau net télévisuel.
5,
4, 3... C'est beau, non? C'est beau, c'est fort.
C'est toujours beau une chaîne qui démarre, surtout quand elle est 24 heures sur 24. Et il n'y a pas de plus grand, de plus magnifique mouvement perpétuel qu'une chaîne d'information. C'est l'heure d'e-télévision.
Pierre Lescure conclut son discours par ces mots. L'information, c'est noble. L'information, c'est un service. L'information, c'est un devoir. L'information, c'est l'un des éléments dynamiques de la vie démocratique. Il ne faut donc même pas se poser la question s'il est important d'avoir plusieurs chaînes. En 1999, si la chaîne ITL pose question, ce n'est pas au sujet de son indépendance, mais de sa pertinence. Après tout, les Français sont-ils prêts à payer pour être informés en boucle? À l'époque, la France ne connaît qu'une chaîne, toute info, LCI, du groupe TF1. À l'inverse de la chaîne de la Maison Bouygues, ITL, elle revendique un ancrage local, des journalistes inside, embarqués en bon français. La promesse est de raconter l'information à hauteur d'homme et de quartier grâce à de jeunes journalistes multicartes, à la fois intervieweurs, cadreurs et monteurs. Tout le dispositif tient sur des camionnettes high-tech, les estafettes, de petites régies mobiles reliées à la rédaction par satellite et qui permettent la livraison des sujets dans la journée. Bon, les premiers pas d'ITL sont compliqués. Assez vite, la nouvelle chaîne connaît plusieurs accidents. Un plan social en 2001, une fusion des rédactions avec Canal+, des budgets resserrés, des têtes qui changent à la présidence, comme à la direction de la rédaction. Et même Pierre Lescure est remercié. En 2005, grâce à la TNT, ITL est diffusée en clair, tout comme une nouvelle venue BFM. Désormais gratuites, les chaînes d'infos trouvent peu à peu leur place dans les habitudes cathodiques des Français. ITL fait même la course en tête, puis se fait doubler par sa rivale. Le problème n'est pas l'information, mais l'audience, les parts de marché et l'influence que cela génère. ITL, comme les autres chaînes du groupe Canal, perd de l'argent, plusieurs millions. Mais malade, elle trouve à son chevet de bonnes âmes, prêtes à la sauver, parmi elles, Vincent Bolloré. Sixième génération d'une lignée d'industriels bretons, Vincent Bolloré est un héritier à la tête d'une fortune et d'un groupe présent dans les transports, la logistique, l'énergie et la communication, en France comme à l'étranger, notamment en Afrique. Dans le monde des médias, il n'est pas non plus un inconnu. En plus d'être le premier actionnaire de l'agence de communication Havas, il a créé un journal, Direct Matin, et une chaîne, Direct 8. Une chaîne qu'il vend en 2012 au groupe Vivendi en échange d'actions. Et c'est grâce à elle qu'il entame sa prise de pouvoir sur le groupe audiovisuel Conquête, qui devient effective 2 ans plus tard. À l'instar de Xavier Niel, Mathieu Pigas ou Patrick Drahi, Vincent Bolloré devient le patron d'un groupe média surpuissant. Pensez donc. À l'époque, Vivendi, c'est Universal Music, Studio Canal, de la VOD, des salles de spectacle, de la billetterie et plusieurs chaînes de télé, dont celle du groupe Canal+. Le 12 février 2015... Au micro de Léa Salamé, sur France Inter, Vincent Bolloré accepte d'évoquer ses ambitions pour le groupe.
Quand vous voyez, il y a une mode, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise, de grands patrons qui deviennent des patrons de presse ou qui achètent des titres de presse. On pense à Xavier Niel ou à Patrick Drahi. Vous regardez ça comment? Quel est...
Bah, je trouve ça très bien parce que j'adore les journaux et de toute façon les patrons de presse, enfin les patrons dont vous parlez n'ont aucune influence sur les rédactions et donc je trouve ça excellent qu'il y ait des financements qui viennent dans ces journaux. C'est très très bien.
Quand est-ce qu'on verra la touche Bolloré, la marque Bolloré sur les chaînes de Canal?
D'abord, Canal est très très bien géré par Bertrand Méheu, Rodolphe Bermer et toute une équipe. Ils sont une trentaine que je connais maintenant bien, qui développent ce formidable outil médiatique. Je dis outil médiatique parce que Canal, c'est pas que la France. Pratiquement la moitié maintenant est à l'international. Il y a un esprit Canal, il y a des séries qui sont faites.
C'est quoi l'esprit Canal?
C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative. Parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais
ils ne vous font pas toujours rire.
Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
Autrement dit, à bon entendeur. Et de fait, quelques mois plus tard, avant l'été, les Guignols de l'info, l'émission satirique emblématique de la chaîne cryptée, est mise au placard. Face à l'émotion suscitée, la chaîne évoque une méprise. Promis, juré, les marionnettes seront de retour le temps d'un lifting complet. Il faudra attendre l'hiver et le licenciement d'auteurs historiques pour revoir le journal satirique du faux PPDA. Mais l'émission change de format, de case et surtout de ton. Et peu à peu, le public oublie les guignols. L'émission est enterrée sans fleurs et sans funérailles. À ciao, bonsoir. Mais si la fin de cette émission mythique marque un tournant, elle n'est que la partie visible des désirs du nouveau boss de Vivendi. Dans les articles, les documentaires et les livres qui ont tenté de tirer le portrait de l'industriel breton, un élément revient sans cesse. L'homme est interventionniste, comme l'évoquent par exemple deux de ses amis, Bernard Poignant et René-Georges Kerry, dans ce complément d'enquête réalisé par Tristan Valex.
C'est pas un président contemplatif et de passage. Hein. Quand il prend une chose en main, il va s'en occuper. Mmh. Et il va tout faire pour qu'elle réussisse.
Il veut tout voir, il veut tout contrôler, et il veut surtout tout comprendre. Il raconte que quand il était petit, il s'intéressait tellement à tout dans sa classe que la maîtresse avait mis dans son bulletin de notes « Je me demande si le jeune Vincent ne veut pas prendre ma place ».
Dans les programmes de Canal+, il y avait Spécial Investigation, une émission où des journalistes enquêtaient sur les scandales politiques, économiques et financiers. Au printemps 2015, quelques mois après l'arrivée de Vincent Bolloré, un sujet est consacré au système d'évasion fiscale du Crédit Mutuel. Après plusieurs semaines de tournage, un premier visionnage avec le diffuseur, Canal est organisé et tout se passe pour le mieux. Des révélations, des témoignages inédits, un sujet d'intérêt public, l'évasion fiscale, en effet, est le grand sujet du moment. Pourtant, quelque chose cloche. Le lendemain, en effet, le producteur Renaud Levent-Kim annonce aux journalistes de la chaîne que la diffusion est bloquée. C'est Vincent Belmer, directeur général de Canal+, qui l'a appelé pour l'en informer. L'ordre vient d'en haut, aurait-il dit, selon plusieurs sources. Comprenez, de Vincent Bolloré lui-même. Pourquoi cette censure? Eh bien, la Banque Mutualiste est un partenaire financier important des activités du groupe Bolloré. De plus, Michel Lucas, son PDG, est un proche de l'industriel breton. Et chez Vivendi, on ne touche pas aux amis. Nicolas Vescovacci, co-auteur de l'enquête sur le Crédit Mutuel, le confirme dans ce documentaire de Reporters sans frontières, le système B.
Donc en fait, pour résumer, cette histoire du Crédit Mutuel, c'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui croient en leur travail, qui croient en l'enquête, qui produisent une enquête journalistique de qualité et qui se font censurer par un grand patron en direct, sans crier garde en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'était pas du tout à imaginer la moindre intervention possible d'un grand patron dans cette histoire. On a été vraiment très surpris. Le résultat, c'est que on a tous été virés de Canal+.
D'abord, secrète, la censure s'ébruite durant l'été 2015. Un premier article dans Society, puis dans Mediapart, un journal qui était partenaire de l'enquête de Spécial Investigation. L'info est reprise partout. Après plusieurs semaines de négociations, l'enquête trouve refuge sur le service public. Ce qui a voulu être caché sera donc vu de tous. Drôle de communication. Oui, sauf que l'interventionnisme du nouveau patron a été récurrente dans de nombreuses émissions, selon les souvenirs de Rodolphe Belmer, ancien directeur général de Canal+. En février 2024, devant les députés, il pointe, parmi les raisons de son départ, l'ingérence de l'actionnaire.
Sans jouer sur les mots, en tant que directeur général du groupe, directeur de la publication, c'était ma responsabilité les contenus. La personne qui est responsable des contenus dans un groupe audiovisuel, selon la loi, et qui est responsable socialement, c'est son rôle social, c'est le directeur de la publication. Donc moi, si je fais ce métier-là, c'est moi qui choisis les contenus. Enfin, je suis pas du tout autocrate ni autoritaire, mais c'est mon rôle d'assumer cela. Et si je considère que quelqu'un veut le faire à ma place, c'est plus moi qui suis responsable de l'application, et donc je vais faire autre chose.
Rodolphe Belmer ne sera pas le seul à quitter le groupe, dont certains contre leur gré d'ailleurs. Le 3 septembre, Vincent Bolloré convoque une séance extraordinaire du comité d'entreprise. Ce jour-là, à la surprise générale, l'état-major de Canal+ s'est débarqué. Parmi cet aréopage, la directrice de l'information d'ITL, Céline Pigalle. Dans le procès-verbal rendu public depuis par le journal en ligne Les Jours, on peut lire cette citation de Vincent Bolloré. La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte. La terreur fait bouger les gens. Des propos que, 10 ans plus tard, Vincent Bolloré relativise devant les députés.
Honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. C'est ça cette histoire de terreur, c'est une histoire de réputation et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là où je disais je suis le paratonnerre et le bouc émissaire. C'est comme ça. Mais non, je suis plutôt gentil, plutôt rigolard, plutôt affable. Je me méfie des blagues que je dis. Et j'ai des tas de gens avec qui je travaille depuis 40 ans et qui sont très contents de moi.
Parmi ces gens qui sont très contents de travailler avec Vincent Bolloré, il y a Guillaume Zeller, un Sciences Po charmant, selon la formule du patron. Un journaliste qui a fait ses gammes à Direct 8 et Direct Matin, dont Bolloré, rappelons-le, est le propriétaire. C'est donc lui qu'il met à la tête d'ITélé en septembre 2015. Est-il un habitué des chaînes d'info, Guillaume Zeller? Non, pas vraiment. De plus, il est le petit-fils de l'un des généraux putschistes de 1961. Une filiation et un combat pour l'Algérie française qu'il ne cache pas. Mais aurait-il les épaules pour porter l'uniforme de la chaîne? En interne, beaucoup en doute. Face au mécontentement, Vincent Bolloré se rend en personne à ITélé fin septembre. Et devant les salariés, il confirme Guillaume Zeller et promet quelques dizaines de millions d'investissements. En réponse, les journalistes réactivent la Société des journalistes, une association qui a pour but de défendre l'indépendance éditoriale. Au cas où. Alors, quel est le projet de Vincent Bolloré pour ITélé? Quelle est sa relation et son lien avec la formation? Et qu'est-ce qui va pousser les journalistes d'ITélé à arrêter le travail? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la grève à ITélé.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
À la fin de l'année 2015, la reprise en main de Vincent Bolloré sur les médias de la sphère Vivendi n'est un secret pour personne. Elle est même un sujet de conversation et de débat dans la presse et le monde médiatique, mais aussi dans le cercle du pouvoir, comme à l'Assemblée nationale. Si bien qu'une proposition de loi est rédigée par le député PS de Paris, Patrick Bloch. L'objectif est de renforcer les droits des journalistes, mais aussi du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le gendarme des médias, en s'assurant que les intérêts économiques des actionnaires et des annonceurs ne portent aucune atteinte au pluralisme et à l'indépendance. En coulisses, on nomme cette loi la loi Bolloré. Dans le même temps, l'industriel breton poursuit la restructuration du groupe Canal. Au printemps 2016, alors que la nomination de Zeller à la tête d'ITélé a fait pchit, il nomme Serge Nedjar, un homme qui a fait carrière dans la régie publicitaire, notamment au sein du groupe Bolloré. À son arrivée, il cumule direction de la chaîne, direction de la rédaction, direction de la régie publicitaire du groupe Canal+. Un mélange des genres qui interroge, évidemment. Le 1er juin, les journalistes d'ITélé le rencontrent. Face aux pertes du groupe, le nouveau patron annonce des économies. Il faudra faire mieux avec moins. De l'information bon marché en somme. Il révèle également l'adoption d'un nouveau nom pour l'automne, CNews, mais sans qu'un projet clair ne soit présenté. Il évoque bien des débats, de l'opinion et des collaborations avec les différentes antennes du groupe. Mais, selon le compte-rendu de la réunion rendu public depuis, le nouvel homme fort d'ITélé explique ainsi sa méthode.
Il va falloir que les mentalités changent. Le journalisme, comme vous le faites, je l'ai vu dans la presse écrite. À la moindre occasion, quand on parlait d'argent, ils posaient les stylos. Et aujourd'hui, ces journalistes, ils sont au chômage. Vos scrupules sont des débats dépassés. Et quand je vois des gens comme vous, ça me donne pas envie. Les annonceurs, désormais, devront être pris en compte.
À la suite de cette rencontre, une première motion de défiance est votée contre la direction de la chaîne Info. À la question « Faites-vous confiance à la direction d'ITélé pour maintenir le cap sur la voie d'une information de qualité et indépendante ?» 89,5% votent non. 4 jours de grève s'en suivent, la première dans l'histoire du groupe. Dans les assemblées générales, un nom revient de façon récurrente, celui de Jean-Marc Morandini. Après des années à TF1, l'animateur-producteur a fait son retour sur Direct 8, une télé Bolloré. Rien d'étonnant, alors de l'imaginer comme l'un des visages de la future CNews. Sauf qu'au début de l'été, Morandini fait la une dans la rubrique des faits divers. Aïe. Le 12 juillet 2016, en effet, Les Inrocks publient une enquête sur les pratiques de l'animateur. Dans ce papier, signé Fanny Marlier, on peut lire le témoignage de jeunes comédiens castés pour une mini-fiction imaginée pour le web, Les Faucons, produite par Morandini. Ces jeunes hommes évoquent les demandes par courriel de photos et de vidéos d'eux dénudés, le pubis rasé ou en train de se masturber. Des demandes faites par Catherine, la directrice du casting, qui n'est autre que Jean-Marc Morandini lui-même. Face à ces accusations, l'animateur sort du silence et le 19 juillet 2016, il convoque la presse et clame son innocence.
Alors je vais vous le dire clairement parce que vous l'attendez et vous êtes venu pour ça aussi. Moi je n'ai jamais abuser personne. Je n'ai jamais forcé quiconque à avoir des relations sexuelles avec moi. Et je vous le dis clairement, puisque vous l'attendez, c'est parce que c'est sous-entendu dans ces papiers dégueulasses. Je n'ai jamais couché avec un mineur. Le seul objectif, c'est de faire du sensationnel aujourd'hui. Nous sommes une petite société de prod, et c'est vrai que certaines choses ont été faites un peu artisanalement, de manière maladroite. Mais vous le savez très bien, là, on est dans la manipulation, on veut me tuer. Vous savez, je suis corse. Et en Corse, il y a deux choses sacrées. C'est l'honneur et la famille. Ils ont piétiné ces valeurs. Et franchement, je n'oublierai jamais. Merci.
2 mois plus tard, fin septembre, après 48 heures de garde à vue et la perquisition de son domicile, Jean-Marc Morandini est mis en examen pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravée. Car au cours de l'enquête, de nouveaux témoignages sont arrivés. Parmi eux, celui d'un plaignant, mineur à l'époque, qui a passé le casting pour un remake du film Ken Park. Et il se trouve que l'animateur aurait choisi une scène dans laquelle il devait se déshabiller et se masturber. Le casting aurait eu lieu au domicile de l'animateur. À la suite de sa garde à vue, Jean-Marc Morandini est alors placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Malgré la gravité des accusations, le 7 octobre 2016, la direction d'ITélé annonce l'arrivée de l'animateur à l'antenne pour la fin du mois. Après la tenue d'une nouvelle assemblée générale et du vote d'une nouvelle motion de défiance à 92,7% des suffrages, la direction invite la rédaction à activer la clause de conscience. Une disposition qui permet à un journaliste, s'il considère que la ligne éditoriale de son journal est contraire à sa conscience, justement, de quitter volontairement une entreprise de presse tout en bénéficiant des indemnités de licenciement. Drôle d'idée du dialogue social. Le 17 octobre 2016, les journalistes d'ITélé votent la grève reconductible. Comme porte-voix, les salariés de la chaîne choisissent Antoine Genton, président de la Société des journalistes d'Itélé.
On souffre de ne pas avoir suffisamment de moyens depuis plusieurs mois maintenant. On a perdu 50 postes au mois de juin, alors que on accueille Jean-Marc Morandini qui, lui, va travailler avec une équipe de 6 personnes dédiées à son émission pour une heure d'antenne. Ce sont des décisions qu'on a du mal à comprendre.
Pour toute réponse, la direction a donné jusqu'à vendredi aux journalistes pour faire jouer leur clause de conscience, c'est-à-dire prendre la porte avec indemnité. Un immense gâchis, estime Mylène Payet du syndicat Plus Libre.
Cette chaîne, elle est née en 99, il y en a qui sont là depuis le départ. C'est une rédaction sérieuse, on est en train de détruire tout ça. C'est le sentiment qu'il y avait dans l'Assemblée Générale tout à l'heure, chez les salariés, c'est un sentiment de gravité. Ouais, c'est un sentiment de dégoût. On se dit, c'est dommage, elle est bien cette chaîne, on l'aime bien, on travaille dur pour elle. Et en face, la réponse, elle est très dure, ouais.
Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravés, rappelons-le.
Ce 17 octobre, à la mi-journée, les Inrock publient de nouvelles révélations sur l'affaire Morandini. Au début des années 2000, le producteur était actionnaire d'un site internet, Génération Gay, sur lequel on pouvait avoir accès à des photos de jeunes hommes dénudés, moyennant finance. Pour trouver des modèles, des castings étaient réalisés. Un jeune garçon, Vincent, était l'un des candidats. C'est lui qui a contacté les enquêteurs. Au moment des faits, il avait 18 ans. Sans domicile fixe et sans argent, il postule donc au casting. Auditionné, on lui donne rendez-vous dans les bureaux d'entreprise. Selon son témoignage, c'est Jean-Marc Morandini qui le reçoit, seul. Il l'invite à se déshabiller, puis à se masturber. Morandini, face à lui, se masturbe également. Il a éjaculé sur moi, a pris un mouchoir pour s'essuyer et m'en a tendu un pour me laver à mon tour, précise le plaignant. Dans ce même article, l'avocate de l'animateur fait savoir qu'il conteste la moindre infraction pénale. En signe de protestation, devant les locaux d'Itélé, le magazine Les Inrock est dans toutes les mains. Et pourtant, à 17h59, comme prévu, du studio 102, l'émission Morandini Live est lancée.
Morandini Live, c'est donc parti jusqu'à 19h. L'actualité décryptée par les médias, c'est désormais tous les soirs. Et notre dossier, aujourd'hui, va s'intéresser au phénomène Stéphane Plaza. Il est l'animateur.
Évidemment, durant l'émission, il n'y a aucun mot sur le mouvement de grève, tout comme sur les nouvelles révélations des Inrock sur Morandini. Et pourtant, partout ailleurs, le mouvement a été les fédéraux titres. À la radio, comme à la télé, les grévistes sont invités. Et tous évoquent la baisse de moyens, l'influence grandissante de la régie publicitaire, tout comme les attaques sur l'information au sein de la grande sœur, Canal. Ils confient également leurs interrogations individuelles. Comment pourrait-il être toujours libre d'enquêter dans des domaines où le groupe Bolloré a des intérêts? C'est un mot étrange pour ces journalistes. Car pour la première fois, ils passent de l'autre côté du micro. Non pas comme observateurs, mais comme témoins et acteurs d'un événement. Oh, certes, ils sont un peu mal à l'aise. Alors, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils posent des questions sur l'indépendance, la liberté d'information, les moyens de l'information, la ligne éditoriale. Des questions auxquelles la direction refuse de répondre. À chaque rassemblement, à leur côté, on reconnaît des journalistes, mais aussi des humoristes ou des candidats à la prochaine élection présidentielle. François Bayrou, notamment. Ou bien une figure, comme Roselyne Bachelot, devenue entre-temps chroniqueuse télé.
De la même façon qu'un ministre mis en examen ne reste pas au gouvernement, un journaliste mis en examen doit, en attendant que sa situation soit réglée, doit être éloigné de l'équipe de rédaction.
L'information étant un bien public, l'État est aussi appelé à la barre. Officieusement, le président de la République, François Hollande, reçoit quelques journalistes. Officiellement, c'est la ministre de la Culture et de la Communication qui s'empare du dossier. Le 21 octobre, Audrey Azoulay rappelle dans le journal Le Parisien que les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Il réaffirme son souhait du vote d'une loi qui renforce les garanties des journalistes, notamment par l'établissement d'une charte éthique. 3 jours plus tard, l'émission Morandini Live est suspendue pour raisons opérationnelles jusqu'à la fin de la grève. Le mouvement se poursuit. Chaque jour, une assemblée générale a lieu. Chaque jour, des journalistes annoncent leur départ de la chaîne. Ce plan social, qui ne dit pas son nom, semble satisfaire la direction. Alors, une semaine passe, puis 2, puis 3. Et à chaque fois, au cours des assemblées générales, les mêmes mots, les mêmes craintes.
qu'on craint, c'est que cette rédaction ne soit plus vraiment une rédaction, qu'on soit plus des journalistes, mais des communicants au service de l'entreprise, au service du groupe, au service de Vincent Bolloré.
Le 14 novembre 2016, la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias est promulguée. Parmi ces dispositions, le texte oblige les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelle à se doter d'une charte déontologique. Le lendemain, Audrey Azoulay est l'invitée de Léa Salamé.
Vous seriez journaliste aujourd'hui à iTélé, vous feriez grève?
Je pense que le combat qui est mené, celui pour l'indépendance de la rédaction, ne concerne d'ailleurs pas seulement les journalistes. Ce n'est pas un combat catégoriel, ça concerne l'information qui est donnée au public, qui a droit à une information indépendante, loyale. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un texte de loi que j'ai soutenu.
Nathalie Cossion-Moisé est la seule à droite à soutenir les salariés d'iTélé. Elle dit les autres se taisent pour ne pas se mettre à dos Bolloré. Pourquoi il fait si peur, Vincent Bolloré?
Il faut le demander à ceux qui se taisent. Mais pour moi, c'est l'actionnaire de référence, il a une responsabilité. Je l'avais reçu d'ailleurs tout au début quand j'ai pris mes fonctions sur les sujets de création audiovisuelle et cinématographique.
Vous trouvez ça normal que des milliardaires se partagent la presse aujourd'hui, qui s'achètent des journaux, Bolloré, Pigasse, Niel, Berger, Drahi, Bernard Arnault, chacun son média, chacun sa danseuse,
c'est
normal ça?
Mais c'est justement pour ça que cette loi qui sort aujourd'hui, qui est promulguée, est importante, parce que le principe de cette loi, qu'est-ce que c'est? C'est de protéger l'information de l'intérêt des annonceurs, ou de l'intérêt des actionnaires. Donc les actionnaires, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a de grands groupes qui ont d'ailleurs des intérêts très diversifiés. Ce qui compte pour protéger la déontologie, pour protéger l'information, c'est justement cette séparation claire entre l'intérêt des actionnaires et l'information.
Après 31 jours de grève, le 16 novembre, les salariés votent la suspension du mouvement. Mais qu'ont-ils obtenu? Sur le fond, pas grand-chose. Malgré sa mise en examen, Jean-Marc Morandini, lui, garde son démission. La direction garantit néanmoins qu'aucun collaborateur d'iTélé ne soit contraint de travailler avec lui contre son gré. Pour le reste des revendications, la direction réaffirme la promesse d'indépendance, avec néanmoins un patron de chaîne qui reste aussi directeur de la rédaction. Bien. Et petit à petit, et malgré le départ de nombreux journalistes, la chaîne retrouve son rythme. En février 2017, CNews remplace donc officiellement iTélé avec comme slogan « La chaîne info, décryptage et opinion ». Sur le spot de pub, on reconnaît Jean-Pierre Elkabbach, Laurence Ferrari, Patrick Poivre d'Arvor, Pascal Praud. Et Jean-Marc Morandini? Eh bien, il est absent lors du lancement de CNews, mais il réapparaît en septembre 2017 avec une nouvelle formule de son émission. Depuis, dans le cadre de l'affaire de la web-série Les Faucons, l'animateur a été condamné à 2 reprises, notamment pour corruption mineure sur 3 adolescents et pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Il a fait appel de ces 2 condamnations. Il est néanmoins inscrit au fichier des délinquants sexuels. Plus de 7 ans après cette grève, la promesse de décryptage et d'opinion semble convaincre de plus en plus de téléspectateurs. Dans le même temps, le groupe Bolloré a lancé une OPA sur le groupe Lagardère, mettant ainsi la main sur Europe 1, ainsi que sur les journaux et des maisons d'édition. Des grèves s'en sont suivies, ainsi que des départs de nombreux journalistes refusant de travailler dans un média sous l'influence de l'industriel breton. Alors terminons avec cette pensée d'Albert Camus. En 1939, il écrivait ceci. « Un journal indépendant donne l'origine de ses informations, aide le public à les évaluer, répudie le bourrage de crâne, supprime les invectives, pallie par des commentaires l'uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter, servir le mensonge. »
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la grève à iTélé, plus largement la liberté et l'indépendance des journalistes face aux propriétaires de médias privés. On en parle avec mon invité Julia Cagé. Bonjour.
Bonjour.
Alors je le rappelle, vous êtes professeur d'économie, autrice de nombreux ouvrages et articles sur la question de l'information, de son coût et des droits des journalistes. Alors parmi ces écrits, l'information est un bien public co-rédigé avec Benoît Huet, qui vient de sortir en poche un livre qui a comme sous-titre « Refonder la propriété des médias ». Depuis quand, finalement, les propriétés des grands médias sont-elles entre les mains d'actionnaires
puissant, je ne suis pas certain que ce soit complètement récent.
Non, depuis toujours. Hein. Quand on regarde Citizen Kane, par exemple, ça repose sur un cas d'école aux États-Unis. C'est pas un personnage qui sort de nulle part. Mais il y a eu deux changements récemment qui sont pas spécifiques à la France, mais c'est très frappant en France, c'est très visible avec le cas de Vincent Bolloré. Un, c'est quand même la concentration croissante du secteur. Vous le disiez hein, dans votre enquête, en fait, il y a eu beaucoup de médias qui sont allés à la recherche finalement de ces milliardaires parce qu'on a des difficultés économiques, on a des difficultés économiques en presse écrite, il y a des difficultés économiques plus généralement dues à l'effondrement du marché publicitaire. Donc il y a des médias qui ont besoin de trouver d'autres recettes et comme ils ne sont pas rentables, souvent ils vont aller chercher finalement la générosité entre guillemets parce qu'elle est toute intéressée.
Ils survivent dans les bras du CAC 40.
Voilà, de milliardaires et donc ça s'est renforcé parce qu'on a un secteur qui est quand même de plus en plus concentré. Et puis quand même, on avait un certain nombre de règles qui étaient plus ou moins respectées. Encore une fois, Robert Arsan était loin d'être un patron parfait, mais on essayait de ne pas aller toujours trop loin, on va dire, d'une certaine manière. Et ce qu'a fait Bolloré, c'est qu'il a fait sauter toutes les digues. D'ailleurs, c'est intéressant la manière dont vous avez fait la narration, parce que ça insiste beaucoup sur le cas Morandini. Finalement, c'était pas ça qui était essentiel. Enfin, Vincent Bolloré,
il est emblématique.
Voilà, mais c'est ça. Il est emblématique du fait qu'il veut affirmer sa toute puissance. Il avait aucune raison de se battre particulièrement sur Morandini. En fait, il va se battre sur le Crédit Mutuel. C'est différent. Là, c'est ses amis, c'est la politique, c'est le fait d'empêcher l'investigation. Pareil sur les Guignols. C'est du contenu. Sur Morandini, c'est vraiment l'occasion de dire c'est moi le chef. Et, vous me permettrez l'expression, je vous emmerde. Mais en fait, c'est ça que dit Bolloré à ce moment-là. Il fait sauter cette première digue à iTélé. En fait, il pousse à la grève. Il pousse à la clause de cession. Et ça, en fait, on voit, il va de plus en plus loin à chaque fois. Il va encore plus loin avec Europe 1, avec le JDD. Là, on a une des grèves de la presse écrite les plus longues de l'histoire en France. C'est pas grave, vous avez un mois de grève, mais il impose un nouveau directeur de la rédaction envers et contre tout. Donc à chaque fois, il dit, bah, regardez, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, il se passe rien. Et donc, en fait, il a raison, d'une certaine manière, de faire ce qu'il veut. Puisque ni la loi, ni le politique, aujourd'hui, n'est là pour protéger l'indépendance des journalistes.
Mais il y a le service public, figurez-vous. Parce que, en plus, nous sommes plus écoutés qu'eux. Et ça les rend fous. En quoi la grève d'ITL est-elle symbolique des questions de propriété des médias et de la fabrique de l'information? Parce qu'il y en a d'autres. Il y a Pigas, Agnel, et on est quand même focalisé sur Bolloré.
Ben, on est focalisé sur Bolloré, encore une fois, parce que c'est lui qui a fait preuve du plus d'intervention au cours des dernières années. Je ne vais pas défendre particulièrement tel ou tel milliardaire, et finalement c'est un peu la limite de la focalisation sur le cas Bolloré. C'est-à-dire il y a tellement d'atteintes à l'indépendance, tellement de cas de censure, tellement de cas de licenciement abusif qu'on a l'impression que quand on parle en France de l'indépendance des médias, on ne parle plus que de Vincent Bolloré. Je trouve qu'on parle beaucoup de Vincent Bolloré parce que c'est lui qui fait partir la majorité de la rédaction à iTélé, puis à Europe 1, puis encore une fois au JDD, qui impose des unes à Paris Match. On pourrait démultiplier les exemples. Les autres milliardaires, il y a un certain nombre d'entre eux qui se comportent, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est quand même très bien, un peu mieux. Puis il y en a d'autres qui interviennent de manière un peu plus discrète, ou qui s'en excusent, ou qui prétendent ne pas être intervenus. Bolloré, il le fait tellement ouvertement que finalement, c'est un cas d'école, et ça nous montre jusqu'où peut aller le pouvoir de l'argent privé dans les médias en France. Et si vous me permettez un petit mot sur l'audiovisuel public, l'indépendance, c'est important, et c'est bien de la préserver. Et malheureusement, on voit aussi qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont mis en cause aujourd'hui, par exemple avec la suppression de la redevance. Et il faut réussir à protéger, même dans le contexte actuel, ce qui permet aujourd'hui aux journalistes de l'audiovisuel public de faire leur travail en toute liberté.
Alors, on va écouter ce que Jean-Jérôme Bertolus, ancien journaliste d'ITélé, pense de ce problème de l'indépendance. Il répond à Jean Bulot d'Affaires Sensibles.
Effectivement, en 2016, c'était pas possible pour les journalistes, en tout cas ils l'ont estimé comme ça, que eh bien on n'est plus un directeur, on est un directeur de la rédaction qui a les deux casquettes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la rédaction souhaitait vraiment que ces deux fonctions, et c'est minimal, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut vouloir protéger les rédactions, on peut vouloir protéger le travail quotidien des journalistes, qui est pas facile, et pas facile pas seulement pour des raisons politiques, pas facile parce qu'aujourd'hui l'économie des médias c'est hyper tendu, que c'est compliqué, et que l'information ça coûte très cher, et donc c'est pas facile parce que la pression sur les journalistes elle est énorme, etc. Mais franchement, La base de la base, c'est que la fonction de directeur de la rédaction, ce soit un directeur de la rédaction, ce soit pas un directeur commercial.
Bon, ça fait écho à ce qu'on disait depuis le début. On est bien d'accord.
Oui, enfin, y a deux questions ici. Hein. Oui. Y a la question directeur de la rédaction versus directeur commercial. Et quand on parle d'information et comme bien public, justement, il y a cette idée de sortir simplement l'information de la pure logique du marché. Et donc, on ne veut pas, en gros, que l'information soit aux mains, en particulier des annonceurs, et qu'on fasse plaisir aux annonceurs pour gagner plus d'argent. Et ensuite, il y a quand même une autre dimension qui est fondamentale. C'est-à-dire que même si on a un directeur de la rédaction qui n'est pas un directeur commercial, on veut que les conditions de nomination de ce directeur garantissent l'indépendance des rédactions. Et ça, c'était une demande très forte de la part des journalistes du Journal du Dimanche. C'est une des mesures qu'on pousse aussi très fortement avec Benoît Huet dans le livre « L'information est un bien public ». Il nous paraît fondamental aujourd'hui de donner un droit de veto aux rédactions sur le choix du ou de la directrice de la rédaction.
Parce que finalement, l'inscrire dans la loi, alors.
Oui, il faut l'inscrire dans la loi. Donc, il y a deux manières de le faire. Pour la presse écrite, les sites internet, c'est de conditionner l'accès aux aides à la presse au fait que l'on ait ce droit de veto sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. D'accord. Et pour ce qui se concerne les fréquences audiovisuelles privées, conditionner l'attribution de ces fréquences audiovisuelles au droit de veto sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. Ça pourrait se faire vraiment d'un coup de crayon, parce que très simplement, vous n'avez même pas besoin d'une loi pour le faire, il suffit d'un décret. Oui, pour modifier la loi sur ce point-là.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Ça, je vous le demande. En fait, quand on a eu la grève au JDD à l'été dernier, et là encore, hein, on peut saluer le courage, on l'a un peu oublié, mais il faut vraiment saluer le courage des journalistes d'ITélé. Et de la même manière, il faut saluer le courage des journalistes du Journal du Dimanche, dont beaucoup ont perdu leur emploi et dont beaucoup, même aujourd'hui, n'ont plus d'emploi dans le domaine qui était le domaine du journalisme. Ils sont partis en grève pendant plus d'un mois.
C'est un vrai remake de la grève d'ITélé.
Oui, exactement. Et puis au milieu, il y a eu Europe 1, ça a été un peu moins visible, mais pareil. Les journalistes étaient sur les marges d'Europe 1 et protestaient, demandaient qu'on défende leur indépendance et personne n'était là. Et ça a été frappant en fait cet été parce qu'il y a eu plus de mobilisation politique, y compris avec un certain nombre de personnalités politiques de la majorité qui nous ont promis de faire une loi ou de pousser en faveur de ce droit de veto. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que tout le monde, du coup, maintenant se cache derrière les états généraux de l'information. Donc c'est une manière de repousser la question d'un an et de dire « Ah, bon, on va pas le faire maintenant puisqu'on va avoir une grande réflexion collective, on va le refaire dans quelques mois. » Espérons que ça soit en place dans quelques mois, mais cette mesure, elle coûte pas cher. Je veux aussi préciser quand même que cette mesure, c'est pas une manière de fragiliser les médias. Elle est en place aujourd'hui dans un média comme Le Monde, elle est en place aujourd'hui dans un média comme Les Échos, qui sont deux médias possédés par des milliardaires, Bernard Arnault, Xavier Niel. Bon, vous avez quand même des médias qui fonctionnent plutôt bien et qui ont quand même donné cette garantie d'indépendance à leurs journalistes. Sauf que toutes les rédactions n'ont pas la chance d'avoir les mêmes actionnaires. Et c'est là où c'est important que l'État intervienne pour mieux protéger le travail des journalistes.
Mais l'État a-t-il l'intention et la volonté d'intervenir ?
A priori, pas le gouvernement actuellement, mais j'espère que oui. Enfin, je veux dire, sur ces questions-là, il faudrait qu'on trouve une sorte de consensus. Parce que, justement, c'est le danger de se focaliser trop sur le cas Bolloré. Il ne faut pas une règle contre Bolloré, comme si tout le reste était parfait. Tout le reste n'est pas parfait.
Bien sûr,
il faut une règle qui s'applique à tous les médias, y compris les médias de gauche, les médias de centre, entre les médias davantage à droite. Donc c'est vrai qu'on devrait avoir un certain consensus dans le paysage politique autour de l'idée de préserver l'indépendance des médias. Et moi, j'ai quand même bon espoir de convaincre, y compris la ministre de la Culture actuelle, Rachida Dati, sur la nécessité de faire ce décret.
Et qui fonctionnerait aussi pour les rédactions du service public ?
Ah bah oui,
évidemment.
Bien sûr. Hein. Sur le choix le droit de veto sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction, ça serait une excellente chose pour le service public.
France Inter. Affaires sensibles.
Julien Cagé, il y a un autre angle mort dans cette grève et dans le système Bolloré, c'est la question de la clause de non-dénigrement que la majorité des journalistes qui sont partis ont signée, comme l'a révélé un ancien journaliste de Canal+, Jean-Baptiste Rivoire, lors de son audition à l'Assemblée nationale. C'était le 7 mars 2024, on l'écoute, on en parle ensuite.
Il gère ses médias en s'affranchissant des lois. Et qu'il se passe à peu près rien en France, eh ben, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles retenues, bâillonnées, par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort, dans 25 ans, vous faites un tweet, Vincent Bolloré trouve maladroit. Il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans. Il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe.
Qu'est-ce que ça vous inspire légalement? Parce que c'est brutal.
C'est fondamentalement problématique. Ce n'est pas propre à Vincent Bolloré. Hein. Ça, par exemple, avec Reworld Media, a fait pareil à un certain nombre de journalistes. Vous avez des mauvaises pratiques. Et ces pratiques-là, en fait, visent à faire partir les journalistes et à les faire taire. Et c'est notamment très important pour eux de faire taire les journalistes, parce que c'est eux qui savent enquêter, qui savent révéler, qui savent mettre la lumière sur un certain nombre de pratiques problématiques. Plus généralement, il y a quand même cette pratique que par les grandes entreprises privées, et c'est quand même de plus en plus récurrent d'employer ce qu'on appelle le procès Bayon. Alors dans le cas qu'on vient d'entendre, c'est encore plus grave, parce que souvent dans le cas du procès Bayon, vous allez envoyer finalement le journaliste devant la justice, même si vous savez que vous allez perdre. Ça va coûter tellement cher aux médias, ça va coûter tellement cher aux journalistes que vous les empêchez presque vous les empêchez d'enquêter parce qu'ils ont peur que ça leur coûte trop cher. Et là, ça pousse la pratique encore plus loin parce que c'est des gens qui partent. On dit la clause de cession, etc. Vous partez avec des indemnités, mais bon, ça vous garantit pas la belle vie pour des années. Hein. Ça vous permet juste de vous en sortir le temps de trouver un autre emploi. C'est des conditions de départ un peu plus favorables que si vous quittiez juste votre employeur, mais c'est quand même relativement difficile. Et là, on vous menace de vous reprendre finalement ces quelques ressources avec lesquelles vous partez, et c'est vrai que là encore ça devrait être interdit, ça devrait être protégé, d'autant que quand même on parle de clause de cession, on pourrait aussi évoquer la clause de conscience. C'est deux droits qui ont été donnés aux journalistes en France, autour de 1936, au même moment où on créait la carte de presse, etc., c'était des protections qui étaient très fortes quand même. C'était des protections assez intéressantes qui ont beaucoup joué. Bah, à l'époque d'Hersant, par exemple, quand vous avez des changements de main, par exemple au Figaro, dans un certain nombre de titres, y compris en presse quotidienne régionale, l'idée c'était de dire aux journalistes, bon, si vous avez un changement d'actionnaire, peut-être qu'on ne peut pas empêcher entièrement l'actionnaire d'intervenir, mais au moins vous avez cette liberté de partir. Et en fait, vous avez la liberté financière de partir.
Ah, c'était tout à fait. C'est une question d'utilisation aujourd'hui.
C'était tout à fait vertueux. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, en fait, cette clause de cession et la clause de conscience, elles avaient leur raison d'être quand il y avait de la concurrence dans le secteur et quand il y avait des emplois de journalistes ailleurs. Mmh. Alors que là, malheureusement, il faut quand même regarder l'évolution du nombre de cartes de presse. C'est que si vous partez, si vous claquez la porte, eh bien, il n'y a plus autant d'emplois dans la rédaction qu'il y a pu avoir historiquement. Donc ça, c'est quand même vraiment le premier problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment cette liberté de partir pour aller ailleurs. Vous partez, mais vous allez souvent devoir faire autre chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est utilisé aujourd'hui par un certain nombre d'actionnaires commencer par Vincent Bolloré pour vider les rédactions. Ouais. L'idée à la base c'était de faire partir un journaliste qui n'était pas d'accord avec votre ligne éditoriale pour en faire revenir un autre. Sauf que ce qu'on a vu avec Vincent Bolloré, là on a beaucoup insisté sur le problème d'indépendance et d'interventionnisme. Le deuxième problème c'est qu'il prétend faire de l'information sans journaliste. En fait, il ne fait plus d'informations. C'est l'autre vraie différence entre iTélé et CNews. Et c'est là où encore on a un problème avec le régulateur. Le régulateur, il a attribué, l'ARCOM en l'occurrence, à l'éditeur une fréquence pour faire une chaîne d'information en continu. Une chaîne d'information en continu, ça suppose d'avoir des journalistes, de payer ces journalistes, de les envoyer sur le terrain.
Ce sera le dernier mot, Julia Cagé. Merci infiniment. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la grève à iTélé, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.